VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 17 mai 2022. Eric Manilakiza avec vous, voici d'abord le sommaire. Au Mali, la junte annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État. Le président Biden rend hommage aux victimes d'une tuerie raciste à Buffalo. Moscou annonce la reddition de 265 combattants de Mariupol, tandis que Kiev parle d'échange. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Mali, le gouvernement a annoncé hier lundi avoir déjoué une tentative de coup d'État. Le communiqué affirmait que cette tentative était soutenue par un pays occidental. Plus de détails avec notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko.
Dans un communiqué lu à la télévision nationale hier soir, les autorités maliennes affirment qu'une tentative de coup d'État avec la complicité d'un pays occidental a été déjouée dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Selon le communiqué, il s'agit d'un groupuscule d'officiers et de sous-officiers. Dans sa livraison du jour, le quotidien, l'indicateur du renouveau affirme que plus de 7 officiers ont été arrêtés, alors que, sur son compte Twitter, le journaliste Wassim Nastre indique qu'un colonel, membre du Conseil national de transition, a été arrêté. Il évoque aussi l'arrestation, le 7 mai dernier, de Baba Ag Ahmeida, membre de la coordination des mouvements de la Zawad. Cette dernière arrestation a été confirmée par Mohamed Ag Ataï, membre de la CMA, sur son compte Facebook. Plusieurs arrestations seraient toujours en cours et les autorités ont promis que les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Les choses ne semblent pas se calmer au moment où l'espoir renaît avec la médiation togolaise pour trouver un accord avec la CEDEAO et proposer un chronogramme des élections permettant d'alléger ou lever les sanctions. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
La France a regretté mardi le départ du Mali du G5 Sahel en estimant que cette décision va compromettre les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme et traduisait l'isolement de la junte au pouvoir à Bamako. Par ailleurs, les pays membres de l'Union européenne engagés au Mali vont retirer une partie de leurs effectifs engagés dans la mission de formation militaire. Après l'arrêt de ces activités, a annoncé mardi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. La chambre de refuge, les sauveteurs pensaient retrouver 8 mineurs disparus sous terre depuis un mois dans une mine de zinc du Burkina Faso est vide. Mais les opérations de secours continuent néanmoins, a annoncé mardi le ministre burkinabé des mines. Ces 8 mineurs ont été pris au piège le 16 avril au fond de la mine de Perkoa, exploitée par la compagnie canadienne Trivali Mining à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou. Au Nigeria, arrestation lundi du contrôleur général des finances publiques dans une affaire de détournement de fonds publics d'environ 80 milliards de naira, soit 184 millions d'euros. L'agence anticorruption accuse Ahmed Idriss, responsable administratif du trésor public nigérien depuis 2015, d'avoir soutiré des fonds par le biais de fausses sociétés de conseil et d'autres activités illégales en utilisant des mandataires, des membres de sa famille et des associés proches. Il doit répondre des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Son prédécesseur, Jonah Ogoniyi Ontula, a été limogé par le président Muhammadu Buhari pour un détournement présumé de 2 milliards et demi de naira des fonds des agences de sécurité. Le Togo a rouvert mardi ses frontières terrestres avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso fermées depuis plus de 2 ans à cause de l'épidémie de coronavirus. Les autorités togolaises invitent la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale en cours. Au procès à Paris d'un ex-préfet rwandais pour génocide, des rescapés ont témoigné mardi de l'ampleur du massacre de l'église de Kibeho dans le sud du Rwanda. Ils espéraient y trouver refuge. Des milliers de Tutsis y ont été tués en avril 1994. L'accusé, l'ancien préfet de Gikongoro, Laura Butibaruta, conteste toute participation à l'extermination des Tutsis. Le gouvernement de Kinshasa a jugé mardi soir prématuré un retrait des troupes ougandaises présentes en RDC pour combattre le groupe rebelle ADF, soulignant qu'une telle décision évoquée par des militaires ougandais dans la journée revenait au chef des deux États. 28 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dimanche et lundi au Soudan du Sud lors de tentatives de vol de bétail dans le nord du pays, a indiqué mardi un responsable sécuritaire local. Le chef du gouvernement libyen soutenu par le maréchal Khalifa Haftar s'est retiré mardi de Tripoli après avoir tenté de déloger l'exécutif rival en place. Après plusieurs heures de combat, le service de presse du premier ministre désigné par le parlement siégeant dans l'est du pays, Fatih Bachaga, a indiqué dans un communiqué que ce dernier et ses ministres avaient quitté Tripoli pour préserver la sécurité des citoyens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden en visite à Buffalo dans l'État de New York qualifie de poison la théorie du suprémacisme blanc après une fusillade qui a fait 10 morts et 3 blessés dans un supermarché samedi. Il est venu pour, dit-il, partager le deuil et apporter du réconfort aux familles des victimes. Le point avec Abdelrahman Dia.
Joe Biden a déclaré que le silence n'est plus une option face à la montée de l'extrémisme et du racisme. Le président Biden qualifie ce massacre de terrorisme motivé par une idéologie haineuse et perverse, une idéologie qui, selon lui, déchire l'âme des États-Unis. Arrivé dans cette ville de l'extrême nord de l'État de New York, le président Biden et son épouse ont rendu hommage aux victimes en déposant une gerbe de fleurs devant le supermarché où un jeune extrémiste a commis son forfait avant d'être arrêté. La majorité des victimes sont des Noirs. L'organisation Gun Violence Archive décompte déjà cette année plus de 200 fusillades de masse au cours desquelles 4 personnes au moins ont été blessées ou tuées pour chaque fusillade. L'attaque de ce week-end est perpétrée par un jeune homme blanc qui, avec son fusil d'assaut, a conduit pendant 4 heures pour se rendre dans cette partie de la ville de Buffalo, habitée majoritairement par des Africains-Américains. Avant le massacre, Peyton Gendron a publié un texte de 180 pages où il se définit lui-même comme fasciste, raciste, antisémite et se réclame de la théorie complotiste du grand remplacement.
Le président Biden recevra jeudi la première ministre suédoise et le président finlandais à la Maison-Blanche. Ils vont discuter des candidatures de la Finlande et de la Suède à l'OTAN et de la sécurité européenne ainsi que du soutien à l'Ukraine attaquée par la Russie, a précisé la Maison-Blanche. Les deux pays déposeront demain mercredi conjointement leur candidature à l'OTAN malgré un blocage de la Turquie. Moscou annonce la reddition de 265 soldats ukrainiens qui étaient retranchés dans la Syrie Azovstal, ultime poche de résistance à Mariupol. Kiev évoque un prochain échange de prisonniers. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Au cours des dernières 24 heures, 265 combattants ont rendu les armes et se sont constitués prisonniers, dont 51 gravement blessés, déclare le ministère russe de la Défense dans un communiqué. L'échange de ces soldats sera réalisé pour rapatrier ces héros ukrainiens le plus rapidement possible, indique de son côté le ministère ukrainien de la Défense. La vice-première ministre ukrainienne, Irina Verechuk, a évoqué un échange qui concerne uniquement 52 militaires grièvement blessés. Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi avoir instauré un cessez-le-feu autour du complexe sidérurgique d'Azovstal. La semaine dernière, Kiev a affirmé que plus de 1000 soldats ukrainiens, dont 600 blessés, se trouvaient dans ce complexe industriel. La prise totale de Mariupol, ville stratégique sur la mer d'Azov, va permettre à Moscou de contrôler la bande de territoire allant de la péninsule de Crimée, annexée en 2014, au territoire du Donbass dans l'Est, déjà aux mains de séparatistes pro-russes.
Le procureur de la CPI a annoncé le déploiement en Ukraine d'une équipe de 42 enquêteurs et experts pour enquêter sur les crimes commis pendant l'invasion russe. L'ONU a fait part mardi de son inquiétude face aux conséquences humaines de la recrudescence de la violence des gangs lourdement armés dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, où la violence a atteint des niveaux inimaginables selon l'ONU. Au moins 92 personnes non affiliées à des gangs et 96 personnes présumées membres de gangs auraient été tuées lors d'attaques armées coordonnées à Port-au-Prince entre le 24 avril et le 16 mai. Plusieurs diplomates se sont réunis mardi à l'ambassade de Palestine en Arabie Saoudite pour rendre hommage à la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tuée le 11 mai d'une balle dans la tête.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Erosine Munezero.
Au Kenya, les autorités viennent de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la vente des avocats à un stade précoce, rapporte l'agence Ecofin. Selon l'autorité de l'agriculture et de l'alimentation, les variétés As et Fuerte destinées à l'exportation devront désormais afficher un taux minimal de matière sèche de 24%. Un tel seuil permettra de s'assurer de la bonne maturité de ce fruit et garantir sa conformité aux exigences du marché international. Des centaines de milliers de tonnes de blé sont toujours bloquées dans un grand port indien en raison de l'interdiction d'exporter la céréale par New Delhi. L'Inde affirme que cette interdiction est destinée à assurer la sécurité alimentaire du pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Les ministres de l'agriculture du G7 ont aussitôt critiqué la décision indienne qui est aussi un allié de Moscou, craignant de voir s'aggraver la crise mondiale des matières premières. Le patron de Tesla, Elon Musk, a indiqué mardi que le rachat de Twitter ne parviendra pas à son terme tant qu'il n'y aura pas la garantie que moins de 5% des comptes sur la plateforme sont des faux. Il a également estimé que les faux comptes représentaient au moins 20% des utilisateurs de Twitter.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yakuba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le président Macky Sall soutient le footballeur Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain.
Le chef d'État sénégalais a affirmé dans un message sur Twitter soutenir le joueur du Paris Saint-Germain et demander le respect des convictions religieuses du footballeur. Après son absence lors de la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie, l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye est visé par des critiques en France après le refus qui lui est prêté de s'associer à la lutte contre l'homophobie et d'arborer un maillot arc-en-ciel. Comme l'année dernière, le joueur du PSG n'a pas joué samedi lors de la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie, une nouvelle défection qui lui a attiré des critiques en France, mais aussi des soutiens dans son pays, le Sénégal.
Sao Tomé et Principe exclu de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023.
L'équipe de Sao Tomé et Principe est accusée d'avoir enfreint le règlement Covid-19 de la CAF en alliant un joueur inéligible lors du match du 24 mars 2022 entre Maurice et Sao Tomé lors des éliminatoires à la CAN 2023, déclare l'instance africaine du ballon rond. La CAF explique que le joueur concerné ne s'est pas soumis au test PCR obligatoire d'avant-match et n'a pas fourni aux officiels un résultat du test PCR effectué dans la fenêtre de 72 heures requise pour participer au match. Sao Tomé et Principe a donc été disqualifié par la CAF et devra en outre s'acquitter d'une amende de $10 000. Cette disqualification fait l'affaire de l'île Maurice qui est repêchée pour rejoindre la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Nigeria dans le groupe A.
La Nigériane Asisat Oshola décroche le soulier d'or en Espagne, n'est-ce pas Yakuba?
L'internationale nigériane du FC Barcelone a remporté le soulier d'or de la Primera Iberdrola, le championnat d'élite féminin de football. La quadruple joueuse africaine de l'année a inscrit 20 buts en seulement 12 titularisations sur les 19 matchs du championnat féminin espagnol, soit le même nombre de buts que la brésilienne Guise de Madrid CF. Mais la star des Super Falcons du Nigeria a joué moins de matchs car absente pendant 16 semaines à cause d'une blessure. Aziza Oshoala, championne d'Espagne cette année avec les Catalans, est désormais la première femme africaine soulier d'or d'Espagne.
Cyclisme pour terminer, Binyam Girmay remporte la 10e étape du Giro. Entendez le Tour d'Italie.
L'Érythréen de l'équipe belge Intermarché a devancé au sprint le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui a levé le pouce en franchissant la ligne pour saluer la performance du jeune Africain. Binyam Girmay, 22 ans, participe pour la première fois de sa carrière au Giro. Professionnel depuis 2020, il compte 8 victoires à son palmarès, dont 3 pour la seule année en cours. Fin mars, il est devenu le premier Africain vainqueur d'une classique. Au classement général, l'Espagnol Juan Pedro López a conservé le maillot rose de leader. Demain mercredi, la 11e étape se court sur une distance de 203 km.
C'était les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Sénégal, dans la ville de Louga, à environ 220 km au nord de Dakar, le manque d'emploi touche de plein fouet les jeunes. Face à l'absence de perspectives, les mototaxis sont devenus la profession de choix pour la majorité des jeunes. Reportage à Louga de Seydina Abagay.
Sous le chaud soleil, des jeunes assis sur leur moto attendent des clients pour des courses qui rapportent entre 200 et 500 francs CFA. Ici, ne pas travailler n'est pas une option. Gorofay, mécanicien de formation, s'est tourné vers le métier de Jakartamen, conducteur de moto, en attendant de trouver un emploi.
On est des jeunes et on veut travailler. Être conducteur de Jakarta n'est qu'un passe-temps. Moi qui vous parle, j'ai une profession. Mais la moto Jakarta est juste un emploi de transition qui me permet de subvenir à mes besoins.
Pour d'autres comme Maguette Sek, les mototaxis sont une source de revenus supplémentaires.
Moi, je sais peindre. Bâtiment.
Moi, je suis peintre en bâtiment, mais en même temps, agent de sécurité et en tant que vigile. Mais je m'en tiens pas à ça, parce que le Sénégal est un pays difficile, surtout pour nous les pères de famille. On s'adonne à la conduite de moto Jakarta pour pouvoir satisfaire nos besoins, sans tendre la main à personne.
Les jeunes conducteurs de mototaxi disent également ne pas sentir le soutien de la municipalité. Papsa Mandiaye estime que les autorités ne font pas d'efforts à leur égard.
2 ans et poussière sur les Jakarta, mais...
J'ai fait 2 ans dans les motos Jakarta, mais j'ai jamais vu la mairie poser un acte pour aider les jeunes conducteurs de Jakarta. Mais si, il se peut que cela existe, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Et beaucoup de jeunes peuvent en témoigner.
Du côté des autorités locales, on affirme qu'il y a eu des réflexions pour trouver des alternatives aux jeunes, notamment dans l'agriculture et l'élevage, sans succès pour le moment. Ismaël Fall est adjoint au maire de Louga.
Sur le problème de l'agriculture, nous aussi, on a un problème. Même si nous avons eu un projet aujourd'hui, on a des problèmes de foncier. La mairie de Louga est une mairie qui est, sur le plan foncier, une mairie déjà qui est presque épuisée sur le plan foncier. Il n'y a plus de possibilité de donner des terres aux jeunes pour faire de l'agriculture parce que c'est une grande ville moderne. Peut-être que maintenant, il y a d'autres villes avec maintenant la communalisation universelle. Les communes qui sont autour de, n'est-ce pas, ces communes banlieues, si je peux les appeler ainsi, qui effectivement aujourd'hui qui possèdent des terres, qui peuvent peut-être effectivement, dans le cadre de l'intercommunalité, permettre aux jeunes locataires de pouvoir délocaliser des projets et des programmes d'agriculture pour les mettre, pour les amener là-bas.
Les autorités pensent cependant à relancer la Soteca, une société textile de la zone qui permettra de créer 1 millier d'emplois. La mairie compte également sur le programme d'emploi des jeunes lancé par le chef de l'État. En attendant une solution, le nombre de Jakarta à Louga exprime mieux que n'importe quel sondage le chômage et le désespoir des jeunes de ce pays.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Togo, le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement agissent sur l'écosystème de la mer et des lacs du pays. Au sud-est du pays, le lac Bokozola a perdu plus de la moitié de sa surface en une trentaine d'années. Les conséquences sur la vie des populations sont diverses. Le gouvernement tente de sauver les meubles à travers un projet de restauration de la biodiversité autour du lac. Reportage de notre correspondant au Togo, Kossi Wusu.
À l'ombre d'un arbre devant la maison royale du village d'Anirankope dans le sud-est du Togo, Akapo Visa a la nostalgie du temps où il faisait bon vivre dans sa localité. Pour lui, ce lac Bokozola qui borde son village était une providence.
Avant, une petite partie de pêche sur le lac fournissait assez de poissons pour les familles. Aujourd'hui, le lac ne donne plus rien.
Sous l'effet des coupes massives de la mangrove et de l'envasement, la superficie du lac Bokozoula s'est réduite au fil des années. Plus de 7800 km² en 1986, elle s'est réduite à quelque 3000 km en 2013, soit une perte de 60%. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Mona Anani, un jeune du village d'Agnoronkopé.
Pour ceux d'entre les jeunes, comme moi qui ne sommes pas allés loin dans les études, c'était la pêche qui était notre activité principale et notre salut dans le village. Depuis que le lac est devenu pauvre en ressources, beaucoup de jeunes sont partis vers le Nigeria.
Et si rien n'est fait, le lac Bokozoula risque de disparaître. Un programme du gouvernement togolais, appuyé par la Banque mondiale à travers le projet Wakaresip, est initié pour la sauvegarde du patrimoine naturel et la restauration de la biodiversité autour du lac Bokozoula. Le directeur préfectoral de l'environnement, le commandant Nayabi Nunja, fait le suivi contrôle trimestriel de l'exécution des travaux. Il précise que plus de 100 hectares des berges sont déjà reboisées.
Ici également, depuis Boko jusqu'à Agnoronkopé, il n'y a pas que les mangroves qui ont été mises en terre. Il y a beaucoup d'autres essences à croissance rapide, productrices donc de bois de feu, qui ont été mises en terre. Et on a mis aussi en terre d'autres essences qui vont générer des revenus, tels que les cocotiers.
Pour préserver cette restauration de la mangrove, le projet a initié des activités génératrices de revenus pour les habitants, ainsi que l'installation d'une unité de transformation du manioc, la principale culture de la localité. Le coordonnateur adjoint du projet, Yao Komi, explique.
On va d'abord aider à pouvoir transformer facilement le manioc pour produire du gari, du tapioca, de l'éthanol, pour permettre aux paysans de tirer le maximum de profit de cette culture-là.
Et l'espoir renaît dans le village d'Agnoronkopé. Les habitants s'impatientent de retrouver les multiples bienfaits de leur lac, mais cela prendra du temps. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu en RDC, l'urine humaine est devenue une matière précieuse pour les agriculteurs qui l'utilisent comme engrais organique. 20 litres se négocient actuellement entre 6 et 8 dollars américains. Une bonne affaire pour les jeunes qui investissent dans la collecte de l'urine. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
La pratique est beaucoup plus intense à Chacha, un village situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Goma. Olivier Mahéché, un jeune homme de la région, y fait déjà son commerce.
J'avais d'abord reçu cette information. Puis, je me suis rendu compte qu'un de mes anciens collègues faisait partie des acheteurs d'urine humaine. J'avais cherché dans notre famille et parmi ceux qui ne le savaient pas encore, et j'ai réalisé 20 litres. Je les ai vendus à 12 000 francs. Et aujourd'hui, il me reste deux bidons que je garde et que je pourrai vendre à 15 000 francs le bidon dès que l'achat reprendra. Cette dernière fois, il y avait plusieurs fournisseurs. C'est pourquoi les caisses des acheteurs sont vides au début.
Pour obtenir un stock important, chaque membre de l'association qui achète de l'urine humaine est obligé d'apporter au moins 5 litres par semaine et la sensibilisation continue dans la communauté pour appeler les gens à venir vendre ces produits. Yves Chabouira, l'un des initiateurs de ce projet, explique.
Les membres de l'association, on les a recommandé que chacun puisse conserver au moins 5 litres puis ils l'amènent ça au bureau et nous on va stocker ça. Ça c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, on a un peu sensibilisé certains gens dans la communauté. Et puis, les gens là amenaient des 5 litres, et comme 5 litres, nous, on l'achetait à 3 000 francs.
L'urine est utilisée pour fertiliser les sols et tuer les insectes dans les champs, une pratique validée par les agronomes de la région qui estiment qu'elle n'est pas nouvelle. Eric Moussoubao est ingénieur agronome.
L'urine humaine, c'est un engrais naturel. Et c'est une pratique très ancienne. Heureusement qu'elle est en train de revoir le jour. Vous savez que les plantes ont besoin des trois nutriments principaux, dont l'azote, le phosphore et le potassium. Et vous comprendrez que dans un litre d'urine, il y a environ 6 grammes d'azote, 1 gramme de phosphore et 2 grammes de potassium. Donc, tous les éléments dont la plante a besoin se trouvent dans l'urine. À part ces éléments, l'urine est constituée aussi de 95% d'eau. L'eau n'a aucun effet négatif sur la plante.
Ces scientifiques congolais nous rappellent que les dangers ou l'importance de l'urine sur la plante dépend de son état, ce qui justifie la conservation pendant 30 jours des stocks faits par les agriculteurs des Chacha avant leur utilisation.
L'urine, si vous l'utilisez à l'état pire, donc si vous venez et vous pissez sur une plante, normalement vous allez la brûler. Tout est question de dosage, donc il faut diluer l'urine. Il faut mélanger un peu de l'eau, mais aussi vous stockez l'urine jusqu'au moins minimum un mois. Ce temps de stockage va tuer le pouvoir acide de l'urine.
Actuellement, de nombreux agriculteurs expérimentent cette méthode dans les territoires de Masisi et se vantent des résultats, ce qui laisse penser que les prix du litre d'urine humaine pourraient augmenter. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, des retours des Chacha.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le président Joe Biden a dénoncé mardi à Buffalo le racisme qui a coûté la vie à 10 personnes africaines-américaines dans un supermarché. Ce massacre a été perpétré par un jeune homme blanc avec son fusil d'assaut. Avant le massacre, Peyton Gendron a publié un manifeste raciste de 180 pages où il se définit lui-même comme fasciste, raciste, antisémite et se réclame de la théorie complotiste du grand remplacement. Pour en parler, Nanit Talani a joint à Minneapolis dans l'état du Minnesota Ruben Johannem, activiste pour les droits africains-américains.
La situation à Buffalo, un mec, je refuse de dire son nom, en tout cas un jeune voyou, il est encore au lycée. Il est un suprémaciste blanc, il déteste les noirs en général. Donc il est passé à Buffalo, il habite d'ailleurs à 3 heures de route de Buffalo, New York. Et il est passé à ce supermarché, fréquenté par des Afro-Américains, et il a commencé à faire feu.
Qu'est-ce qui peut expliquer cette fusillade?
C'est ce mouvement des suprémacistes blancs ici aux États-Unis. Il y a cette fameuse théorie de remplacement. Donc, on est en train de pousser les idées pour voir si les Noirs ne parviendraient jamais à remplacer les Blancs. Parce que dans la démographie, les Blancs sont en train de devenir minoritaires maintenant, malheureusement. Donc, c'est une réaction à ça. Et tout ce qui s'est passé à Charlotte, en Caroline Sud, et plusieurs autres formes de séries encore qui ont eu lieu ici aux États-Unis, tout ça se passe dans le même cadre de cette peur bleue de la part de la population blanche, parce qu'auparavant, elles étaient majoritaires, mais ils sont en train maintenant de perdre leur place de groupe dominant et sont en train de réagir à ce problème.
Pourquoi le gouvernement américain a-t-il du mal à combattre ce genre de tragédie? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Deux problèmes. Et il y a la faction conservatrice des Républicains et autres qui sont en train de se battre même contre le gouvernement fédéral. Et il y a aussi l'accès illimité aux armes à feu de la part de la population. C'est le fameux second amendement qui garantit le droit, le port d'armes à feu aux Américains. Là, c'est un problème compliqué qui n'est pas facile à résoudre parce que le Congrès américain, que ce soit les Républicains et les Démocrates, tout le monde essaie de ne pas piétiner le droit des gens ici aux États-Unis par rapport au corps des armes. Et malheureusement, ce sont les populations minoritaires qui sont victimes.
Le président Biden est allé à Buffalo pour rendre hommage aux victimes. Quel est le message qui peut se cacher derrière ce voyage?
C'est vraiment un geste pour pacifier un peu les esprits, mais le problème est à tout jamais irréductible parce que qui essaie de réduire le droit des Américains au corps des armes à feu? Et c'est un problème qu'on peut résoudre dans les médias ou bien c'est compliqué. Sa présence est porteuse d'un message pour dire ben, nous comprenons, nous sommes là avec vous, tout on va faire de notre mieux pour résoudre le problème. Mais c'est plus facile à dire, c'est pas tellement facile à réaliser.
Ruben Johannem, activiste pour les droits africains-américains aux États-Unis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de cette édition. Joselle Morissin, Georges Léonard Sagnot et Michel Claire Joseph. À la présentation, vous étiez en compagnie d'Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, votre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.